Bonjour à vous tous et à vous toutes à travers le monde. Nous vous souhaitons une fête des trompettes des plus inspirantes, alors que nous attendons l'accomplissement de la réalisation de ce jour. Nous attendons le retour de Christ. Nous attendons l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Veuillez tourner, s'il vous plaît, à l'évangile de Jean au 14e chapitre, s'il vous plaît. Notre travail est de préparer le monde, de préparer l'Église et de nous préparer nous-mêmes pour la venue prochaine du royaume de Dieu et pour la seconde venue du Christ. Il y a plusieurs années, j'ai entendu pour la première fois, par la bouche de M. Armstrong, que Jésus-Christ allait revenir sur la terre. J'avais jamais entendu parler de ça. Ça a été une grande surprise pour moi. Je venais d'une Église protestante. Ici, dans le 14e chapitre de Jean, nous avons la promesse du retour de Christ. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, Jésus-Christ devait être une pierre d'achoppement pour les Juifs, d'abord, mais aussi pour un grand nombre à notre époque. Même certains appartenant au peuple de Dieu ont été induits en erreur parce qu'ils attendent un Christ protestant, pour ainsi dire, et non pas le Christ de la Bible. Nous prêchons le Christ de la Bible et nous prêchons son retour et nous prions pour son retour. Jésus a dit, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire il y a plusieurs postes, il y a plusieurs offices dans la maison de mon Père. Et dans le temple à Jérusalem, il y avait différentes pièces où les sacrificateurs demeuraient. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Nous savons que le Christ nous a appelés pour devenir des sacrificateurs, des juges dans le monde à venir. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque le Christ reviendra, il sera sur la terre. Et c'est ça la bonne nouvelle. En 1959, tout ce que je pouvais voir dans l'avenir, c'était un cosmocide, parce que les superpuissances dans l'univers, les États-Unis et la Russie, étaient en guerre froide. Et il y avait un risque de conflagration nucléaire où le monde entier pouvait être impliqué et pouvait être annihilé. Mais j'ai appris que le Christ pouvait venir et qu'il allait venir. Et c'était ça l'espoir. Et mes yeux se sont ouverts à cette espérance extraordinaire. Le Christ va revenir sur cette terre et il va nous accueillir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allons à 2 Timothée, le chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 4. Il faut que ces réalités-là soient dans notre esprit. Il faut que nous ayons la vision du retour de Christ. Il nous faut penser à ça régulièrement. Nous en nourrir, nous en encourager. L'apôtre Paul, ici dans 2 Timothée, parle de sa mort prochaine. Il s'adresse à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 1. Timothée était un évangéliste. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, à son avènement et au moment de son royaume. Ça dit dans 1 Pierre 4, verset 17, que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire par nous. Nous sommes sous le jugement, c'est-à-dire sous l'examen de Dieu. Et ça ne doit pas être un processus douloureux. Ça peut être un processus encourageant, un processus de croissance, et c'est encourageant vraiment. Prêche la parole, verset 2, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Certains dans l'Église n'aiment pas être corrigés, mais Jérémie a dit, corrige-moi, ô Dieu, non pas dans ta colère, mais dans ta bonté, pour que je ne sois pas perdu. C'est dans Jérémie chapitre 10. Dieu veut que nous soyons corrigés pour que nous restions sur le bon sentier qui nous mène vers son royaume. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est malheureux que certains d'entre nous ont abandonné la saine doctrine, mais sont allés après des spéculations. Nous avons besoin d'avoir la doctrine saine de la parole de Dieu, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils veulent entendre des choses nouvelles, des choses étranges. Pourtant, les ministres de Dieu ont enseigné les vérités fondamentales de l'Église depuis des dizaines et des dizaines d'années, et nous allons continuer à le faire. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, il ne faut pas que nous soyons séduits à nouveau. Verset 6, Paul écrit, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » Et c'est un combat pour chacun de nous aussi. Nous combattons contre les fausses doctrines, contre les tentations qui émanent de nous, de la société de Satan. « J'ai achevé la course. » Paul dit, « J'ai gardé la foi. » Frères et sœurs, il nous faut garder cette foi. Et en observant cette fête des trompettes cette année, nous gardons la foi. Parce qu'en faisant cela, nous suivons les directives de Dieu dans sa parole. Verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que vous voulez une couronne de justice? Je le veux, à tout prix. Quelles sont les exigences? C'est que nous devons, pour ça, aimer son avènement. Et cette fête des trompettes représente le jour où le Christ va revenir et représente le moment où la couronne de justice nous sera donnée si nous sommes fidèles jusqu'au bout. À tous ceux qui auront aimé son avènement, nous attendons avec joie cette apparition du Christ, cette venue du Christ pour établir son royaume. Parfois, je vais dans d'autres églises locales, un peu partout, et souvent les gens me disent « Bienvenue, M. Ames, nous sommes contents de vous voir. » Lorsque le Christ va revenir, est-ce que ce sera votre façon d'accueillir le Christ? Est-ce que vous allez l'accueillir les bras ouverts avec un cœur joyeux? Est-ce que vous aimez son avènement? Le titre du sermon aujourd'hui, c'est « Accueillez le roi ». Nous aimons son retour, nous l'attendons avec impatience et avec joie. Nous avons faim et soif de justice et nous envisageons le moment où tout le monde entier connaîtra le Christ et où le royaume de Dieu sera établi sur la terre et que le Christ dirigera avec fermeté, avec amour, assisté de rois et de sacrificateurs sous lui. Nous sommes à l'entraînement pour ça actuellement. Allons maintenant à Apocalypse, le chapitre 11, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 11. Cette partie des Écritures est souvent chantée dans une pièce extraordinaire dans le Messie de Handel, dans l'oratorio. Apocalypse 11 et le verset 15. C'est la fête des trompettes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la septième trompette. Il y a eu six trompettes avant qui conduisent à la septième trompette, à cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Vous vous rappelez, lorsque Satan a tenté le Christ, il lui a offert tous les royaumes de la terre, mais Jésus n'a pas court-circuité le plan de Dieu. Il ne s'est pas laissé aller à la tentation de Satan. Il attend, et il attend toujours, le moment où tous les royaumes de la terre lui seront remis, et où ces royaumes-là seront remis à nous. On voit dans Matthieu, chapitre 5, « Heureux les humbles et les enseignables », verset 16, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Dieu est Tout-Puissant, vous savez. Il a toute la puissance. Quand vous regardez le vaste univers, quand vous regardez les milliards d'étoiles, les milliers de galaxies immenses, nous comprenons à ce moment-là à quel point Dieu est puissant et à quel point nous sommes petits et à quel point cette planète Terre est petite et insignifiante comparée au vaste univers. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, comme des sauterelles, comme c'est marqué dans Ésaïe 40. Mais même si nous sommes petits, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons un appel extraordinaire et un but extraordinaire à notre existence. Dieu le révèle dans sa parole. Maintenant, de quelle façon est-ce que les nations vont accueillir le Christ à son retour? Nous, nous allons devoir l'accueillir avec des bras ouverts, avec joie et une grande paix d'esprit. Verset 18, « Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les nations, de récompenser tes serviteurs. » Les prophètes, les saints, ceux qui sont appelés actuellement et qui vivent selon les voies de Dieu, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est formidable. Nous allons être là pour accueillir le Christ si nous craignons son nom, si nous reconnaissons sa puissance et son autorité, le poste de Dieu et de Christ. Alors, ça décrit le moment du retour de Christ. Verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Il y aura plusieurs signes qui vont précéder le retour de Christ. Et ça va annoncer au monde la grandeur et la majesté de la seconde venue du Christ, où les royaumes du monde vont être remis au Christ. Allons à Apocalypse 19. Pourquoi est-ce que les nations vont être irritées, comme on vient de voir? Parce qu'elles sont séduites. Pourquoi est-ce qu'elles sont séduites? Allons à Apocalypse, versets 19 à 21. Satan a séduit la terre entière. Et il utilise de faux prêtres, de faux ministres, de fausses religions pour induire les gens en erreur. Ici, nous voyons le combat qui va prendre place. Ça décrit le retour de Christ. Apocalypse 19 et le verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. » Sur le cheval et à son armée. Alors, toutes les armées de la terre vont utiliser toutes les armes de destruction massive en leur possession à ce moment-là. Toutes les sortes de bombes et de rayons laser, ainsi de suite. Verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » C'est incroyable que certains de nos frères avec nous auparavant sont allés après la marque de la bête. Ils n'observent plus le sabbat. Ils observent maintenant le dimanche. C'est incroyable. C'est malheureux. Il, c'est-à-dire le faux prophète et la bête, furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les nations ont été séduites, trompées. Il y a certaines prophéties qui ont été présentées par certaines autres religions. Il y a la fameuse prophétie de Saint Malachie. Vous allez trouver ça dans l'Encyclopédie catholique, édition de 1913. Vous pouvez retrouver cela sur Internet. Ce prophète de l'Église catholique ne fait pas l'unanimité, ça crée certaines controverses dans l'Église catholique, mais dans l'Encyclopédie catholique, édition de 1913, parle ainsi du dernier pape qui doit paraître. Ça se rapporte à la fin du monde. Et ça dit ceci, « Durant la persécution finale de la Sainte Église romaine, règnera Pierre le Romain. » C'est le dernier pape qui est prédit dans cette prophétie, dont le troupeau connaîtra plusieurs tribulations. Après cela, la ville aux sept collines, c'est-à-dire Rome, sera détruite. Et le juge redoutable, avec un J majuscule, jugera les hommes. Ce sera la fin. Fin de la citation. Alors, il s'agit du commentaire final fait par Saint Malachie dans les commentaires de l'Encyclopédie catholique. Il fut noté concernant, je continue la citation, il fut noté concernant Pierre le Romain, qui, selon la liste de Saint Malachie, doit être le dernier pape, que la prophétie ne dit pas qu'aucun interviendra entre lui et son prédécesseur, désigné sous le vocable de Gloria Olivet. Il est simplement dit que Pierre le Romain sera le dernier pape. C'est intéressant que la prophétie catholique dit que le dernier pape sera appelé Pierre le Romain. Dans l'Évangile de Saint Jean et dans le livre d'Apocalypse, cette prophétie révèle un calcul du temps qu'il reste, ou qui doit rester à partir de ce moment-là, si vous voulez. Il y a un tableau aussi que vous allez pouvoir trouver sur Internet concernant cette prophétie. Et il y a un commentaire sur ce pape numéro 267, désigné comme étant Benoît le 16e, le pape actuel. Gloria Olivet. L'ordre des bénédictins indique traditionnellement que ce pape proviendrait de leur ordre religieux, puisqu'une branche de l'ordre des bénédictins est appelée les Olivetains. On dit qu'après ce pape viendra Pierre le Romain, après plusieurs interventions. Il y a des prophéties qui disent que l'Antéchrist doit imposer le sabbat plutôt que le dimanche. Alors, les gens seront séduits parce que dans ces prophéties-là, il est dit que l'Antéchrist imposera le sabbat. Mais le vrai Christ est celui qui va enseigner au monde les 10 commandements, la voie qui mène à la paix, et qui va enseigner également le sabbat hebdomadaire. Mais les gens sur la terre seront séduits encore à ce moment-là et penseront que le Christ est l'Antéchrist. Le monde entier est séduit, comme l'Écriture dit. Et il y a bien sûr la religion islamique aussi. Je cite ici le Sunday Telegraph du 16 avril 2006, dans un article intitulé « L'effrayante vérité concernant la raison pour laquelle l'Iran veut la bombe ». Le régime religieux à Téhéran croit que ces armes nucléaires vont accentuer la venue du grand Mahdi. Vous avez sans doute lu dans les journaux, comme j'ai une citation ici, qu'au moment où l'Iran s'apprête à avoir la bombe, le président Mahmoud Ahmadinejad est disparu pendant plusieurs heures, alors qu'il a eu un tête-à-tête avec l'imam caché, le 12e imam de la religion chiite. Selon la loi islamique, il s'agit là d'une figure messianique qui va intervenir et qui va devenir le souverain du monde. Alors, les Juifs, eux, attendent un Messie, les chrétiens attendent le Christ, mais ils attendent un faux Christ, ce n'est pas le Christ de la Bible, et les musulmans, eux, attendent la venue d'un Mahdi venant gouverner le monde et donner la paix. Et ces trois groupes seront très surpris. Laissez-moi citer le Coran ici. Les musulmans croient que le Christ n'a pas été crucifié, mais que Allah l'a amené au ciel et qu'il va revenir au jour du jugement pour témoigner contre ses ennemis. Je cite ici le Coran, la 4e sourate, le numéro 157 à 159. Et parce qu'ils ont dit, en parlant des Juifs, et parce qu'ils ont dit, oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Allah, mais ils ne l'ont pas tué, dit le Coran. Ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute. Ils n'en ont pas une connaissance certaine. Ils ne suivent qu'une conjecture. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et juste. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croit en lui avant sa mort, en parlant des Juifs. Et il sera un témoin contre eux le jour de la résurrection. Alors, voilà comment le Coran décrit la situation. Et quand vous lisez Zacharie, le chapitre 12, nous voyons que la maison de David va pleurer le Christ. Zacharie 12, versets 10 et 12. Et lorsque vous lisez Ézéchiel, le chapitre 36, où il est question du deuxième exode, on voit que les descendants d'Israël vont pleurer le Christ parce qu'ils vont réaliser, comme les Juifs au sermon de Pierre, ils vont réaliser qu'ils ont crucifié le Christ, le Messie, et ils seront très tristes de cela. L'opinion musulmane n'est pas unanime concernant le retour de Christ, mais généralement parlant, ils croient que le Christ viendra mener bataille contre l'Antéchrist. Alors les Juifs attendent un Messie, les Islamiques attendent un Mahdi, et les chrétiens à travers le monde attendent un faux Christ. Et ils se trompent, mais ils seront étonnés et surpris, stupéfaits, lorsque le véritable Christ reviendra. Regardons maintenant d'autres prophéties. C'est le jour des trompettes, Et on ne considère pas seulement la dernière trompette, le moment du retour de Christ, mais on considère les six autres trompettes qui préparent le retour de Christ. Et il nous faut être prêts pour le retour de Christ. Le jour du Seigneur, dont il est question dans la Bible, est décrit clairement dans la Bible. Et on voit, donc, il en est question dans Matthieu 24. Allons à Matthieu 25, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. Le jour des trompettes, ça doit être un signal d'alarme pour nous, pour que nous soyons spirituellement alertes, que nous veillons et prions. Et le chapitre 25 du livre de Matthieu nous donne un avertissement en ce sens-là. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'huile représente le Saint-Esprit. Est-ce que chaque jour, vous renouvelez le Saint-Esprit en vous? Comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Monsieur Armstrong avait l'impression qu'il était un de ceux qui a lancé ce cri-là, et l'Église actuellement continue à lancer ce cri pour que le monde sache et que le peuple de Dieu sache que l'époux approche, que sa venue approche. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Et pendant qu'elles étaient parties en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, voyez-vous, celle qui était prête. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que je suis prêt maintenant? Le jour des trompettes nous aide à prendre conscience qu'il nous faut être alerte et vigilant et prêt n'importe quand. Et lorsque celle qui était prête entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais elle répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Marquez-le dans votre Bible. Verset 13. « Veillez donc! » puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et certains de nos frères qui sont décédés dans le Christ vont ressusciter au moment du retour de Christ. Et nous savons qu'il y a des ministres, des épouses de ministres, des membres qui, au cours des années, sont décédés et qui sont dans l'état de sommeil actuellement, comme l'Écriture nous dit. Et ils attendent le moment de leur résurrection, et nous avons hâte de les revoir, d'être réunis à eux au moment du retour de Christ. Mais pour cela, il faut rester alerte spirituellement et vivant spirituellement. Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il nous faut être préparés. Mais il nous faut savoir aussi les événements qui doivent se produire. La séquence des événements nous aide à être alerte concernant ce qui vient. Nous avions un tableau et nous l'avons présenté dans notre émission télévisée numéro 273 intitulée « Étape de la prophétie ». Nous avons décrit dans ce tableau-là les événements de base devant se produire au cours des trois dernières années et demie avant le retour de Christ. Il doit y avoir d'abord la grande détresse mentionnée dans Matthieu 24, versets 21 et 22 et aussi dans verset 29. Alors donc, il y a d'abord la grande détresse. Après la grande détresse, le soleil s'obscurcira. Donc, d'abord la grande détresse. Après ça, il y a les signes célestes décrits dans Apocalypse 6, décrits comme étant les six sceaux. Par après, qu'est-ce qui arrive? Alors vient le jour du Seigneur. Comme on voit dans Joël 2, le verset 30, si ma mémoire est bonne. Alors, la grande détresse, les signes célestes, et ensuite le jour du Seigneur. Et la fête des trompettes représente le jour du Seigneur. Les sept trompettes qui doivent sonner au moment du septième sceau. Il y a quatre événements qui vont prendre place à ce moment-là. Nous allons en passer la revue. Dieu veut que nous sachions ce qui arrive. Allez à Apocalypse chapitre 1, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1. Dieu veut que nous sachions ce qui vient. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, pas pour cacher les choses, mais pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et après, il y a la bénédiction qui vient au verset 3. Verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Certains ont peur de lire le livre d'Apocalypse, mais si vous voulez une bénédiction, comme Jésus a dit, « Béni celui qui lit et qui retient les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Il nous faut être éveillés, il nous faut être alerte, il nous faut être enseignable, il faut connaître la séquence de ces événements-là qui vont se produire. Allons à Apocalypse maintenant, chapitre 11, s'il vous plaît. Et nous allons voir les quatre événements qui vont marquer cette période de 3 ans et demi, juste avant le retour de Christ. Et tout ça commence avec l'abomination de la désolation. Et 30 jours après cela, commence la grande détresse. Apocalypse 11 et le verset 2. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Ça se rapporte directement à ce que dit Zacharie 14. « La ville de Jérusalem est divisée en deux et pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi, les nations gentilles vont contrôler Jérusalem. » Alors, ça va se passer durant 42 mois, verset 3. Qu'est-ce qui arrive aussi durant cette période de temps? « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » 1260 jours. C'est 42 mois de 30 jours. Alors, il s'agit de la même période de temps où la ville de Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations du monde. Et les deux témoins de Dieu vont prophétiser. Ils vont avoir la grande puissance de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Nous devons être reconnaissants de ce qu'ils vont faire, de rendre témoignage au monde. Allons à Apocalypse 12 maintenant et le verset 14. Alors, le premier événement, c'est que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le deuxième événement, c'est que les deux témoins vont prophétiser durant 1260 jours. Et le troisième événement, ici dans Apocalypse 12, verset 14, c'est que l'Église est amenée au lieu de sécurité. Verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu. » Vers son lieu, certaines personnes ont prétendu dans le passé que Dieu peut vous protéger n'importe où vous êtes. C'est absolument vrai. Mais concernant le temps de la fin, l'Église doit être amenée en un lieu. Ce qui va arriver à l'Église, c'est ce que l'Écriture dit, c'est que l'Église sera amenée vers son lieu, non pas vers ses lieux. Elle sera amenée vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Un temps, ça représente une année en termes bibliques. Donc, une année, 2 années et une demi-année, c'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois. Alors, pendant la même période de 42 mois où Jérusalem sera foulée aux pieds des nations et où les deux témoins vont prophétiser, l'Église sera dans un lieu de sécurité. Apocalypse 13 maintenant, verset 5. Et il lui fut donné, en parlant de la bête, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Ça s'est produit au Moyen-Âge de 554 jusqu'à l'an 1814 de notre ère. Mais il y aura une dernière réalisation de cette prophétie qui a une dualité. Et pendant 42 mois, cette bête aura le pouvoir. Et tout ça va conduire au retour de Christ. Alors, il nous faut être conscients de ces événements-là. La grande détresse qui va durer pendant 2 ans et demi. La grande tribulation va durer 2 ans et demi. Puis, il y aura les signes célestes et après, le jour du Seigneur qui, lui, durera une année. Et tout ça couvre la période de 42 mois, les trois ans et demi. Il y a d'autres signes spécifiques que Dieu nous donne aussi dans sa parole. Allons dans Daniel, s'il vous plaît, le 12e chapitre. Daniel, chapitre 12. Et en cette fête des trompettes, il nous faut connaître la séquence des événements qui vont se produire. Daniel, chapitre 12. Certains ont dit de façon erronée que ces jours-là, les 1335 jours, les 1290 jours et les 1260 jours, de même que le un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire les trois ans et demi mentionnés dans Daniel 12, verset 7, commencent tous au même moment et se terminent à des temps différents. Et à partir de là, ils spéculent concernant ce qui peut arriver au point de jonction de ces différents événements-là, mais c'est faux, ce n'est pas exact. Ce n'est pas la vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements décrits avec ces jours ayant un nombre différent commencent à des temps différents, mais se terminent à un moment précis qui est le même, c'est-à-dire le retour de Christ. Daniel 12 et le verset 13, qu'est-ce qui est mentionné ici? « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » C'est le moment où tous les saints et les enfants de Dieu seront ressuscités. À quel moment? À la dernière trompette, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. En verset 1 de Daniel 12, il parle que ce sera une époque de grande détresse. À la fin du verset 1, il dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, telle qu'on voit dans Jérémie 30, verset 7, Matthieu 24, verset 21 et 22. C'est le temps d'une grande détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu dans toute l'histoire du monde. Et regardez combien de temps cela doit durer. Verset 7, ça doit durer un temps, des temps et la moitié d'un temps, jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent et que la force du peuple saint soit entièrement brisée. Et il dit au verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Encore une fois, à la fin des jours, Daniel sera ramené à la vie avec les autres serviteurs de Dieu. Verset 9, Dieu répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » À partir du moment où le sacrifice quotidien sera éliminé et où l'abomination du dévastateur sera dressée, il y aura 1290 jours, au verset 11 ici. Donc, il y a quelque chose qui doit se produire 30 jours avant les 3 ans et demi, avant les 42 mois, avant les 1260 jours. Il y a quelque chose qui doit se produire 30 jours avant ça. Où il est question ici de 1290 jours. Qu'est-ce qui doit se produire? C'est que le sacrifice quotidien doit être arrêté et que l'abomination du dévastateur doit être dressée en lieu saint. C'est très clair. Et tout ça tombe ensemble, comme il faut. Gardez votre place ici dans Daniel et allons dans Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Et nous allons commencer au verset 15. On voit la séquence des événements ici. Rappelez-vous, la Bible interprète la Bible. Par exemple, on comprend ainsi les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Lorsque je suis venu à l'Église, là j'ai commencé à comprendre la vérité. J'ai demandé à mon ministre protestant à l'époque qui étaient les quatre cavaliers. Et je me rappelle que le ministre protestant m'avait dit, c'est le Christ. Mais laissons le Christ interpréter la Bible. Parce que le premier cavalier sur un cheval blanc, ça représente des fausses religions, ça ne représente pas le Christ. Le Christ lui-même définit de quoi il s'agit. Et de la même façon ici, concernant les 1290 jours, le Christ nous donne la séquence des événements ici. Dans Matthieu 24, il nous dit qu'il y aura des guerres, des famines, des maladies, qu'il y aura des douleurs. Verset 9, qu'il y aura de la persécution. Nous allons en reparler dans un instant. Après ça, on voit que l'Évangile sera prêché au monde entier pour servir de témoignage. Et après, qu'est-ce qui arrive? Verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, comme on vient voir, établi en lieu saint, c'est-à-dire à Jérusalem, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous dit qu'avant la grande détresse, avant le commencement de la grande détresse, versets 21 et 22 de Matthieu 24, il y a un signe pour le peuple de Dieu. Et ce signe, c'est que l'abomination de la désolation sera établie. C'est que le sacrifice quotidien sera arrêté. Donc, il y a une période de 30 jours où apparemment le peuple de Dieu pourra fuir. Comme c'est marqué au verset 16. Alors, nous voyons ainsi la séquence des événements. On voit l'abomination de la désolation, les sacrifices sont arrêtés, et 30 jours après ça, commence la grande détresse. Allons dans Daniel 2, revenons dans Daniel 12, pardon, et le verset 12, on a déjà vu les jours, verset 12. « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Alors, voici le 1335 jours. Quelle information ça nous donne? Il dit « Heureux celui qui attendra ». Ceux qui attendent, ce sont ceux qui persévèrent. Ils sont prêts à endurer la persécution s'il le faut. Allons à Matthieu 24 encore une fois et voyons la séquence des événements ici. Qu'est-ce qui arrive avant l'abomination de la désolation? Et cette abomination de la désolation-là est 1290 jours avant le retour de Christ. Alors, donc 1335 jours, c'est 45 jours avant le 1290. Le Christ nous le dit, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Oui, il y aura une persécution très forte durant cette période de 45 jours. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Verset 12 maintenant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que votre amour va tenir bon durant cette période de persécution? Alors que certains membres de votre famille ou de vos amis vont être contre vous, vont se détourner de vous, celui, verset 13, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça nous dit dans Daniel 12 et le verset 12, « Heureux celui qui attendra. » Alors, il nous faudra attendre, il nous faudra persévérer durant cette persécution qui va mener au retour de Christ. Verset 14 de Matthieu 24, verset 14, « Alors viendra la fin. » Au moment où cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, vous pouvez voir ce tableau-là et ça vous donne vraiment la séquence des événements. Il y a le 1335 jours, il y a 1290 jours, 30 jours avant la grande détresse, avant le commencement de la grande détresse. Allons maintenant, pour voir le jour du Seigneur, allons à Ésaïe chapitre 34. Ésaïe, chapitre 34, nous allons commencer au verset 8. Ça a le rapport à cette année, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, Ésaïe 34, verset 8. « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. La dernière année précédant le retour de Christ, c'est le jour de vengeance du Christ. » Et verset 8, « Une année de représailles pour la cause de Sion. » Ésaïe 13 nous donne aussi une indication concernant cela. Ésaïe, chapitre 13, commençant au verset 6. « Gémissez car le jour du Seigneur est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et après, il parle des signes célestes, verset 10 et verset 11, et le verset 13. « C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. » Allons à Apocalypse chapitre 6 maintenant. Apocalypse chapitre 6. Il nous faut comprendre, frère et soeur, ce que M. Armstrong a expliqué durant des années, que la grande détresse représente l'attaque de Satan sur l'Église et sur les descendants d'Israël. Alors que le jour du Seigneur, cette année-là, est la colère de Dieu. C'est deux choses différentes. Et les deux, ajoutés l'un à l'autre en termes de temps, représentent les trois dernières années et demie avant le retour du Christ. Apocalypse 6, c'est le verset 12 maintenant. « Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par le vent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » De quoi s'agit-il? Rappelez-vous, c'est tout juste avant le grand moment de la colère de Dieu. Et les rois de la terre, et les grands et les chefs militaires dirent, verset 16, aux montagnes et aux rochers tombés sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant quoi? Devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, cette année-là dont on parle. Et qui peut subsister? La grande tribulation, c'est le cinquième sceau. Et après ça, il y a le sixième sceau, les signes célestes. Et après, il y a le septième sceau, qui est le jour du Seigneur, cette année-là, que l'on voit décrit dans Apocalypse chapitre 8 et 9. Comprenons que les signes célestes introduisent le jour de la colère de l'agneau, ou ce qu'on appelle le jour du Seigneur, le moment où il va juger les nations. Les deux premières années et demie de la tribulation, c'est la colère de Satan qui va se manifester. Jérémie 30 et le verset 7. Alors que ce sera le temps d'angoisse pour les nations de Jacob. Apocalypse chapitre 8 maintenant et le verset 1. « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. » Alors ce jour-là, cette fête des trompettes nous rappelle non seulement la septième trompette, mais les sept trompettes au complet. Et elles nous avertissent de ce qui va se produire au moment du jour du Seigneur. L'Église, à ce moment-là, sera protégée, sera dans son lieu de sécurité. Elle sera rendue à son lieu. Mais ici, nous voyons que les sept trompettes représente des plaies et des jugements que Dieu va répandre sur les nations. Les quatre premières plaies sont surtout de nature écologique, alors que les autres vont devenir poison. Et le quatrième ange, au verset 12, on voit que le soleil perd de sa clarté et la lune également aussi. Et après, on voit qu'un cinquième ange sonne de la trompette. Apocalypse 9, verset 1, je vais prendre une gorgée de thé ici. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel et sur la terre. Ici, la puissance est donnée à ce groupe comme de sauterelles qui sortent de la terre. Verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Un dur tourment qui dure pendant 5 mois. M. Meredith en a parlé dernièrement. Il s'agira probablement de guerre biologique et chimique ou de l'utilisation d'armes biologiques ou chimiques qui apportent davantage de tourments ou de douleurs physiques que de mort comme telle directement. En ces jours-là, verset 6, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Et ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Verset 9, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Il y a quelques années, nous avions demandé à des artistes de faire un dessin d'hélicoptère se transformant pour devenir des sauterelles comme ça. Et leurs missiles attachés sur la carcasse devenaient comme les dards, si vous voulez, des sauterelles. C'était très impressionnant. Alors, verset 9, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire mal aux hommes pendant 5 mois. Alors, on voit qu'il s'agit d'un 5 mois durant cette période-là ici. C'est très clair. Alors, nous allons maintenant à la sixième trompette. La cinquième trompette est le premier malheur. Verset 12, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs. Il reste 2 trompettes à sonner ici maintenant. Verset 13, le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel qui était devant Dieu et disant, délie les 4 anges qui sont sur l'Euphrate. L'Euphrate commence en Turquie, traverse l'Irak et se dirige jusque vers le golfe Persique. Alors, vous avez ici un territoire à l'est de l'Euphrate qui prendra une signification très grande concernant les prophéties des temps de la fin, du temps de la fin. Et le nombre des cavaliers, verset 16 de l'armée, était de 2 myriades de myriades. Ils étaient prêts à faire quoi? On le voit au verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes de la terre. Alors, ce sera terrible à ce moment-là. Les grandes tueries actuellement ou dans l'histoire du monde vont paraître insignifiantes à côté de ce qui va se passer à ce moment-là, tellement ce sera terrible. Verset 17, à la fin, les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lion. De leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux. Ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs ébauches, ni de leurs vols. Frère, il nous faut toujours être engagé à avoir une attitude de repentance. Ceux qui seront tourmentés à ce moment-là, ce sont ceux qui ne se repentiront pas. Nous devons nous assurer de nous examiner quotidiennement. Nous devons nous humilier régulièrement devant Dieu. Et nous devons avoir l'attitude d'être prêts à être corrigés par la parole de Dieu, par sa parole écrite, par les circonstances que Dieu nous donne de vivre, par les ministres de Dieu. Et il nous faut être enseignables. Et il nous faut demeurer enseignables. Nous devons demeurer dans un état d'esprit où nous allons toujours être disposés à nous repentir et à nous humilier devant notre Créateur, devant notre grand Dieu. Donc, dans les chapitres 8 et 9 d'Apocalypse, nous avons ici la description de la 7e trompette qui va avoir lieu. Et nous voyons que les nations ne seront pas très heureuses lorsque le Christ va revenir, comme on a vu dans Apocalypse 11 et le verset 18. Mais nous, quelle attitude allons-nous avoir lorsque le Christ va revenir? Nous allons nous réjouir parce que nous allons savoir que la prochaine phase du plan de Dieu, ce sera l'établissement de son royaume sur la terre. Et finalement, après 6 000 années d'expérimentation humaine malheureuse, sera amené à son terme. Durant ces 6 000 ans, les hommes ont bâti leur propre religion, leur propre façon de faire des affaires, leur propre système d'éducation et ainsi de suite, qui ont amené autant de problèmes et de misère sur la terre. Dans le monde à venir, ce sera complètement différent. Ce monde-là sera dirigé par le Christ et par ses saints ressuscités. Nous avons hâte que ça se produise. Comme nous avons vu dans Apocalypse 11, verset 18, les nations, elles, ne seront pas contentes de la venue du Christ. Mais nous allons nous en réjouir. Nous allons être contents. Paul nous dit « aimer son avènement ». Allez dans Exode, le chapitre 19, s'il vous plaît, et voyons comment le peuple de Dieu a réagi à la présence de Dieu à ce moment-là. Vous savez, Dieu est venu à plusieurs reprises sur la terre. Le Christ est venu à plusieurs reprises sur la terre. Rappelez-vous, comme c'est écrit dans Genèse, que l'Éternel et deux anges sont apparus à Abraham. Et l'Éternel a dit à ce moment-là qu'il allait partager avec Abraham son plan, lui faire connaître son plan, parce qu'Abraham allait hériter la terre. Et il a dit à Abraham ce qui allait arriver à Sodome et Gomorre. Et vous vous rappelez, Abraham a négocié avec Dieu à ce moment-là. Et Dieu a fait certaines promesses à Abraham. Vous vous rappelez également quand l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, a lutté avec Jacob, qui est devenu Israël par la suite. Et lorsque le Christ est né, à sa première venue, en tant que petit bébé sur la terre, à ce moment-là, il portait le nom d'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et au moment de ce qu'on appelle sa deuxième grande venue sur la terre, il viendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans sa gloire. Il revient bientôt sur la terre. Voyons ici comment le peuple de Dieu a réagi à sa présence sur la terre à ce moment-là, lorsqu'il a donné les commandements. Exode 19, verset 16. « Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. » C'était la fin de semaine de la Pentecôte et Dieu a utilisé des trompettes pour annoncer ce qui se passait, pour avertir les gens. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Et la trompette a résonné de plus en plus fortement, comme on voit au verset 19. Et les gens avaient peur. Et le Christ a tonné de sa voix à ce moment-là les 10 commandements. On voit au chapitre 20, verset 19, comment les gens ont eu peur à ce moment-là. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Et nous devons avoir cette révérence à Dieu. Nous devons le craindre, le respecter, respecter sa parole. Allons maintenant voir ce qui s'est produit concernant la première venue du Christ sur la terre. C'était à ce moment-là l'accomplissement de nombreuses prophéties qui avaient annoncé la naissance du Christ dans la chair humaine. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, nous avons une section inspirante ici concernant l'annonce de la naissance du Christ. Il y a un grand nombre de prophéties qui concernent le Messie, annonçant qu'il allait venir, qu'il allait naître d'une vierge, qu'il allait être trahi pour 30 cycles d'argent, qu'il allait entrer à Jérusalem, monté sur un âne, qui allait être transpercé dans le côté par une lance, qu'on le mépriserait, qu'on cracherait sur lui. Et toutes ces prophéties se sont réalisées. Alors, dans Luc 2, nous voyons ici la description de cette occasion extraordinaire de la naissance du Christ, qu'on utilise de façon erronée au moment de la fête de Noël. Luc, chapitre 2 et le verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'épouvante. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. » Oui, le Messie arrivait pour Israël. Verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes. » J'aime lire ces passages de la Bible et je vous encourage à lire Luc chapitre 2 où Dieu a inspiré Siméon qui a tenu le Christ, en tant que petit bébé dans ses bras, quel privilège ça devait être. Et on voit au verset 36 que Anne, la prophétesse, est venue au temple et a prononcé une prophétie concernant cet enfant, le Messie. Et ce sont là des choses très inspirante et impressionnante. Quand est-ce que ça s'est produit, ces choses-là? Si vous avez notre revue anglaise, le Tomorrow's World, de novembre-décembre 2000, dans la section questions et réponses, il y a cette question. Est-ce que la Bible indique que le Christ est né le 25 décembre? La réponse, non, ce n'est pas le 25 décembre, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dans Luc, il est mentionné que le père de Jean-Baptiste était de la classe d'Abia en tant que sacrificateur. Et on peut calculer à quel moment le tour où ceux de cette classe devaient exercer leur fonction, on peut calculer la saison approximative où le Christ est né. C'est à l'automne. Ça nous donne une certaine idée de la saison où le Christ est né. Alors, c'était durant la deuxième période du mois de Sivan, et c'était la classe d'Abia qui, donc, était en fonction. Le Christ est né 6 mois après Jean, qui lui était né au printemps, donc le Christ est né à l'automne, autour de la fête des trompettes, une ou deux semaines avant ou une ou deux semaines après, mais à cette période-là. Donc, le Christ est né au moment de l'automne, autour de la fête des trompettes. Et c'était un temps joyeux, comme c'est décrit ici. Et la fête des trompettes est très joyeuse aussi, parce que ça représente le retour de Christ. Et ça nous remplit de joie, ça remplit de joie les enfants de Dieu, ceux qui l'appellent. Allons à Zacharie maintenant, s'il vous plaît, le chapitre 14. Il est dit clairement que le Christ va venir sur la terre. J'ai visité Israël dans le passé, je me suis rendu à Jérusalem, et au retour, lors d'une étude biblique, j'avais demandé aux membres de l'Église, combien d'entre vous aimeraient vivre à Jérusalem, par exemple? Et sur quelques centaines de personnes qui avaient là à ce moment-là, 3 ou 4 seulement ont levé la main. Mais écoutez, il nous faut comprendre que ce sera notre place, ce sera là où nous vivrons. Ce sera le quartier général du royaume de Dieu, de son gouvernement. Zacharie 14 et le verset 4, ça décrit le retour de Christ. « Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. » Le Christ va donc se tenir sur le mont des Oliviers à son retour. À la fin du verset 5, ici, il est dit « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ils seront alors ressuscités. » Et au verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre à ce moment-là. » Quel temps merveilleux que ce sera! Allons à Zacharie 2. Mais écoutez, le dernier verset d'Ézéchiel 48, Ézéchiel 48, 35, ça décrit la ville de Jérusalem au moment où le Christ sera revenu. Et le nom qu'on va donner à Jérusalem à ce moment-là, c'est Yahweh Shammah, ce qui signifie « L'Éternel est ici ». Ce sera le nom de la ville, un des noms de la ville. Je me rappelle que lorsque nous sommes allés à Jérusalem, il y a un guide qui nous disait « Sham, Sham, Sham », ce qui veut dire « là, là, là ». Alors, Yahweh Shammah veut dire « L'Éternel est ici ». Zacharie, allons à Zacharie maintenant, chapitre 2, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 2 et le verset 10. « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Oui, Jésus-Christ va revenir sur la terre et il va habiter au milieu de Sion. Il va habiter à Jérusalem. Verset 11, « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Quelle merveilleuse nouvelle ici qui annonce que le Christ va revenir pour régner sur toute la terre et que son quartier général sera à Jérusalem. La fête des trompettes, bien sûr, est aussi un avertissement de guerre. La septième trompette particulier annonce ce temps de grande guerre. La fête des trompettes est décrite dans Lévitique 23. Allez à Lévitique 23, s'il vous plaît. C'est la quatrième des sept fêtes annuelles de Dieu qui représente le plan de Dieu aussi. Donc, Lévitique 23 et le verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Alors, nous observons aujourd'hui le premier jour du septième mois de l'année sacrée. Et nos yeux sont tournés vers les jours saints qui suivent. À partir d'aujourd'hui, dans deux semaines, ce sera le premier jour de la fête des tabernacles. Et dans trois semaines, à partir d'aujourd'hui, ce sera le dernier grand jour. C'est comme ça que Dieu a planifié les choses. Les Juifs ont une expression particulière pour décrire la fête des trompettes et la fête des expiations. Ils le décrivent comme étant les jours d'admiration, Lash Shana Tova. Et autour du monde, les Juifs s'envoient des messages de joie et d'encouragement selon une ancienne tradition. Et ils écrivent à ce moment-là où se disent Lash Shana Tova Teketavu, ce qui veut dire en français soyez inscrits dans le livre de vie pour connaître une bonne année. Alors, Dieu veut que nous soyons dans son livre de vie. Et tant et aussi longtemps qu'on est proche de Dieu, tant et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est en nous, que nous renouvelons son esprit jour après jour, que nous lui demandons et que nous marchons dans ses voies, nous allons continuer à voir notre nom rester inscrit dans son livre de vie. Allons dans Philippiens, le chapitre 4, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 4. Nous devons être alertes alors que nous attendons le retour de Christ. Nous devons être vigilants, nous devons prier continuellement et nous devons renouveler quotidiennement l'Esprit de Dieu en nous, lui demander chaque jour de nous remplir de son Saint-Esprit. Philippiens 4 et le verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Vous vous rappelez lorsque les 70 ont été envoyés et qu'ils ont été surpris de voir les démons être soumis au nom de Christ. Le Christ leur a dit, ne soyez pas joyeux du fait que les démons vous soient soumis, mais soyez heureux que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Quel cadeau extraordinaire, quel don merveilleux Dieu nous a fait. Nous attendons notre transformation totale. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15. Plusieurs de nos frères, que la Bible appelle les saints, sont endormis du sommeil de la mort maintenant et attendent d'être ramenés à la vie. Et ça va se passer au moment de la résurrection, à la septième trompette. Quelqu'un m'a déjà demandé, comment vous savez avec certitude que c'est à la septième trompette? Parce que c'est la septième, la dernière des sept trompettes. Qu'est-ce qu'il est écrit clairement dans 1 Corinthiens 15 et le verset 52? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est écrit clairement. Oui, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là. C'est à la septième trompette, à la dernière trompette. Comme c'est écrit au verset 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et plusieurs gens qui se disent chrétiens actuellement disent qu'on doit enseigner aux gens de se placer sous le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu ne dirigera pas la terre littéralement et nous n'hériterons pas de ce royaume-là tant que nous ne serons pas transformés d'être physique en être spirituel, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous n'avons pas une âme immortelle, pas du tout, nous ne sommes pas immortels. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. L'aiguillon de la mort, verset 56, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous remerciez Dieu des victoires qu'il vous donne. Je remercie Dieu des petites victoires qu'il me donne de réaliser dans ma vie spirituelle régulièrement. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est par lui seul que nous pouvons avoir cette victoire. Et rappelons-nous cette exhortation au verset 58 de 1 Corinthiens 15 ici. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ceux qui se sont détournés de la vérité, ceux qui ont suivi des faux enseignants, ceux qui désiraient entendre des choses agréables, ceux qui n'avaient pas vraiment leur cœur dans l'œuvre de Dieu, n'ont pas reconnu ce que Dieu nous a appelés à faire. Dieu nous a appelés à préparer la voie devant le retour de Christ, à annoncer l'Évangile, à nous préparer. Et l'Église doit être prête. Les individus faisant partie de l'Église doivent être prêts. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous attendons avec joie ce moment où nous allons être avec Jésus-Christ, où nous allons être transformés d'être physique en être spirituel glorifié. Allez à Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens, le chapitre 3 et le verset 20. Nous voyons ici que notre destinée, c'est de devenir membre immortel de la famille divine, né dans la famille de Dieu. De quoi aurons-nous l'air? Quel aspect aurons-nous? Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous attendez son retour avec enthousiasme? Le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le cœur de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça nous dit dans Apocalypse 21 qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance, il n'y aura plus de mort, car ceux qui auront été transformés en êtres spirituels ne mourront plus et auront cet aspect extraordinaire, resplendissant. Allons à Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3 et le verset 4. Colossiens 3, verset 4. Quand le Christ, votre vie, voyez-vous, votre vie spirituelle dépend du Christ vivant en vous. Et ça dépend de l'Esprit du Christ vivant en vous et qui sort de vous sous forme de bonnes actions. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors, à ce moment-là, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est à ce moment-là que vous aurez la gloire. Les humbles hériteront la gloire, comme c'est marqué dans Proverbes. Le Christ va paraître à la septième trompette et nos corps seront transformés. Notre corps physique limité, parfois malade et ainsi de suite, sera changé complètement. Le roi s'en vient et il nous dit de veiller et de prier, comme il nous est dit dans Luc 21, verset 36. Il veut que nous accomplissions son œuvre, que nous soyons en train de faire son œuvre à ce moment-là. Il y a beaucoup à faire et il nous faut persévérer jusqu'à la fin, comme on a vu auparavant. Il faut continuer à aimer Dieu, à aimer notre Père, à nous aimer les uns les autres, à ne pas devenir amer, à ne pas nous laisser séduire. Le roi s'en vient et il ne faut demander à Dieu qu'il y ait davantage d'ouvriers d'envoyer dans son champ. Dieu nous a appelés à obéir à ses lois, à être alertes spirituellement. Et le Christ va continuer à travailler en nous pour que nous accomplissions la mission qu'il nous a confiée. La mission d'Ézéchiel, c'est notre mission d'annoncer l'Évangile au monde et d'avertir les nations israélites par Internet, par nos publications, par la télévision. Nous regardons avec enthousiasme maintenant la fête des tabernacles qui approche et aussi avant cela la fête des expiations. Préparons-nous spirituellement, préparons-nous physiquement. Remercions Dieu que le Christ soit en charge. Remercions Dieu que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il nous a été donné un privilège extraordinaire, un appel merveilleux, un don merveilleux, l'Esprit de Dieu et bien sûr le don de son Fils qui s'est offert pour payer l'amende de nos fautes. Priez pour le retour de Christ. Finalement, allez à Apocalypse chapitre 22, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22. Dans certains de mes sermons, je demande parfois aux gens, « Connaissez-vous le dernier verset de la Bible? » C'est un verset formidable, parce que Dieu nous encourage par ces paroles-là. Apocalypse 22, verset 21, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Sa grâce, ce sont ses bénédictions, c'est sa miséricorde, son pardon immérité, ses dons immérités qu'il ajoute par la suite. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, alors que nos yeux sont tournés vers la fête des expiations et la fête des tabernacles qui s'en vient et le dernier grand jour. Verset 20, l'apôtre Jean écrit, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. » Et qu'est-ce que Jean ajoute ici? Quelle est sa réponse? « Viens, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, j'espère que c'est notre prière à tous au cours de cette fête des trompettes. Continuons à faire l'œuvre. Croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons sa venue. Aidons le monde à se préparer pour le plus grand événement depuis la création du monde. Prions pour que son règne vienne. Et disons-lui, viens Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse tous abondamment au cours de cette fête des trompettes, à la fête des expiations, à la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Que Dieu vous bénisse tous très abondamment.